bien entendu ? Contre l'Allemagne !
Bonjour, aujourd'hui dans le fil de l'histoire, quatrième épisode de notre série consacrée au front méconnu de la Première Guerre mondiale. Loin de Verdun, en quoi la guerre de 14-18 fut-elle mondiale ? Question que nous nous posons avec l'historien Michael Bourlet. Dans l'épisode précédent, nous avons rappelé l'histoire des Dardanelles, une bataille contre l'Empire ottoman qui, en 1915, a tourné au désastre pour les franco-britanniques. Aujourd'hui, la guerre dans les Balkans est caporetto. Qui se souvient du front d'Orient pendant la Première Guerre mondiale ? Il faudra attendre 1996 pour qu'un film français de Bertrand Tavernier, Capitaine Conan, ravive un peu en France le souvenir de cette guerre oubliée. Un film inspiré du roman éponyme de Roger Vercel, un Français qui était engagé sur le front d'Orient. Ces combats qui ont opposé les armées alliées aux troupes turques, austro-hongroises, allemandes et bulgares de 1915 jusqu'en 1919, c'est-à-dire au-delà de l'armistice du 11 novembre 1918. Alors que sur le front de l'Ouest, les armes s'étaient enfin tues, dans les Balkans, donc des soldats se battaient encore, parmi lesquels de nombreux Français. Une guerre qui a laissé des blessures profondes dans les Balkans encore aujourd'hui. Malgré l'échec de la bataille des Dardanelles, les Alliés, à l'automne 1915, n'abandonnent pas l'idée de créer un contre-feu en Orient dans le but de soulager la Russie et de venir en aide à la Serbie qui vient d'être envahie par les armées austro-allemandes et bulgares.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Autant l'expédition des Dardanelles a été initiée par les Britanniques, autant celle de Salonique est une idée avant tout française. Le 5 octobre 1915, les milliers de soldats français et britanniques de l'armée d'Orient, commandés par le général Maurice Sarail, débarquent à Salonique, ville portuaire grecque au nord de la mer Égée, appelée aujourd'hui Thessalonique. Plus de 400 000 soldats alliés passeront par ce port. Très vite, les franco-britanniques lancent une opération de sauvetage de l'armée serbe qui a battu en retraite dans les montagnes du Monténégro et de l'Albanie. Un journaliste français de 31 ans est là, envoyé par le Petit Journal pour son premier grand reportage international. Albert Londres, qui accompagne la difficile et lente contre-offensive franco-britannique pour desserrer l'étau germano-bulgare dans lequel est prise l'armée de Serbie. Mais l'opération est un échec. Les Alliés se replient alors sur Salonique, qui devient pendant plusieurs années un camp retranché pour préparer la revanche. Les conditions de vie des soldats y sont effroyables. Ceux qui auront la chance d'en revenir se souviendront des plaines insalubres autour de la ville, du paludisme, du scorbut et de la dysenterie qui ont fait des ravages dans les armées alliées. C'est pourtant de Salonique qu'à l'automne 1918, l'armée d'Orient reprend l'avantage. D'abord contre la Bulgarie, qui signe un armistice en septembre 1918, puis contre l'Empire ottoman, qui en octobre se retire de la guerre. Avec l'écroulement de la Bulgarie, puis celui de l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, désormais isolées, sont contraintes d'arrêter le combat. C'est donc finalement des Balkans, un théâtre de guerre qu'on disait secondaire, qu'allait venir la victoire.
Mes amis, j'ai à vous annoncer une grande nouvelle. Nous sommes vainqueurs sur tous les fronts. Car depuis le 11 de ce mois, la guerre est terminée.
Dernière ordre du jour du général Pétain. Le 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire. L'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi.
Michael Bourlet, comment expliquer que ce front d'Orient, qui a vu passer au moins 400 000 soldats alliés à Salonique, qui a eu un rôle important, même décisif, soit si peu connu ni reconnu ?
Alors, encore une fois, il y a le tropisme français, c'est-à-dire qu'on regarde le sanctuaire, on défend la France.
Le précaré.
Et Verdun, ben, c'est le bastion et tous les champs de bataille de l'Est et du Nord. Et donc, les Français, tout ce qui est projeté, tout ce qui est outre-mer, n'y accordent pas tellement d'intérêt. Pourtant, il y a quand même 400 000 soldats français qui sont allés, hein, voire probablement plus, si on compte les marins, etc. Et je pense qu'il y a aussi le fait que l'extrait correspond bien à ça, en fait. C'est une armée qui est à bout de souffle, quand même, cette armée d'Orient, parce qu'elle est très loin de ses bases. base, elle est tributaire d'un ravitaillement qui vient par la mer, et donc c'est très compliqué. Il n'y a pas de volonté politique, c'est-à-dire qu'il y a cette percée qui est effectuée et qui provoque l'effondrement des empires centraux, mais... qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas assez de troupes là-bas. Et les hommes sont pressés de rentrer. Ils savent que c'est la paix, que la guerre est terminée et on les maintient là-bas. Donc ils se demandent pourquoi et eux, ils veulent rentrer. Donc si vous voulez, il y a tous ces éléments qui font que c'est quelque chose qui n'a pas intéressé et qu'on a préféré valoriser Verdun parce que c'était glorieux. On défendait le sol national.
Ça a dû être difficile pour les hommes, justement, les soldats qui revenaient des Balkans. On les regardait un peu, parfois, comme des planqués oui, en comparaison oui. des souffrances vécues par ceux du front de l'Ouest. Pourtant, il y a eu quand même des combats meurtriers, sans parler des morts, donc je l'ai dit, victimes du froid et des maladies.
Oui, ce sont des champs de bataille terrifiants. Il y a aussi des tranchées hein, sur ce front. On se fait la guerre, et on voit très bien ça dans Capitaine Conan, on se fait la guerre comme sur le front de l'Est. Les hommes souffrent de maladies, on est loin. En France, même si on est au front, à Verdun, on peut avoir l'espérance d'avoir une permission et de rentrer chez soi, ce qui n'est pas le cas pour tous ces hommes. Donc c'est vrai que ces hommes ont vécu quelque chose, une expérience horrible.
Je signale qu'à Marseille, il existe un monument en hommage aux morts de l'armée d'Orient et des terres lointaines, donc de la Première Guerre mondiale, un monument très imposant qui est situé sur la Corniche, face à la Méditerranée et aux îles du Frioul. De la Première Guerre mondiale, il existe un autre théâtre d'opération dont on parle rarement en France, sur un front lui aussi considéré à l'époque par les belligérants comme secondaire, mais qui a marqué profondément la mémoire collective italienne, la bataille de Caporetto, en octobre-novembre 1917. Une bataille livrée dans les Alpes, un cadre et un type de combat assez particulier donc. D'abord, rappelons que lorsque la guerre éclate en 1914, l'Italie choisit de rester neutre, avant finalement, au printemps 1915, de s'engager auprès de la France, de la Russie et du Royaume-Uni. Son principal adversaire dans cette guerre est l'Autriche-Hongrie. Mais à l'automne 1917, profitant que la Russie est sortie du conflit, les Autrichiens et les Allemands s'associent et décident de lancer, avant l'hiver, une grande offensive sur l'Italie, et pour ce faire, mobilisent en secret de gros moyens en hommes et en matériel. Le 24 octobre 1917, vers 2h du matin, une pluie d'obus s'abat sur une position italienne mal défendue, à Caporetto, dans les Alpes du nord de l'Italie, un village de montagne situé aujourd'hui en Slovénie. Les Italiens, surpris par l'attaque, mal préparés, asphyxiés par les gaz, aveuglés par le brouillard et la neige et en sous-effectif, ne peuvent rien face à l'ennemi. La bataille se termine le 12 novembre 1917 par la défaite cuisante de l'Italie. Même s'il y aura d'autres batailles et même une victoire, la défaite de Caporetto est restée un traumatisme national.
Cittadini, abbiamo avuto il privilegio di ospitare i gloriosi soldati.
En 1959, le réalisateur Mario Monicelli tournera un film, La Grande Guerra. À la fin du film, un comité d'accueil patriotique, un peu ridicule, avec chapeau melon et flonflon, prononce un discours ronflant, demande à la foule d'exprimer sa reconnaissance aux glorieux soldats qui, à Caporetto, ont donné leur sang pour la patrie. Et c'est le choc quand ces soldats arrivent, du moins ce qu'il en reste, épuisés, dépenaillés, mutilés. Aujourd'hui encore, en Italie, on utilise le mot Caporetto pour désigner une défaite ou un désastre, même au football. Michael Bourlet, pourquoi cette bataille de Caporetto est-elle si importante ou elle l'a été dans la mémoire collective italienne?
Parce que c'est un désastre, un immense désastre militaire, qui en plus a fait naître une légende, hein, la légende du soldat italien lâche, le soldat italien gréviste aussi, hein, ce qui n'est pas vrai, hein, parce que ces soldats n'ont pas eu de chance, ils ont pris une offensive puissante, violente, qui a totalement détruit les unités italiennes qui étaient en première ligne. Ce désastre de Caporetto a donné naissance à cette légende du soldat... peu courageux italien. Mais en même temps, après la guerre, on a oublié, parce qu'après Caporetto, les Italiens font un peu le ménage dans le commandement, et puis ils prennent des bonnes décisions, les alliés viennent, les Français et Britanniques envoient des troupes en renfort, et pour un peu remonter la pente. Et donc, si vous voulez, après la guerre, on va oublier cet épisode de Caporetto, et surtout les fascistes, qui vont plutôt, eux, centrer l'effort de mémoire sur les soldats qui se sont battus après Caporetto, ou là où ils enregistrent des succès, en fait. Voilà. C'est juste depuis quelques années, à la lumière de recherche, qu'on s'intéresse à nouveau à cette bataille de Caporetto.
Il y avait beaucoup de soldats italiens qui étaient engagés dans cette bataille de Caporetto et qui venaient du sud de l'Italie, qui ne connaissaient absolument pas ce pays, se sont retrouvés dans les montagnes et qui ne comprenaient rien, ne savaient pas pour qui et pourquoi ils se battaient.
Oui, ça c'est un paramètre qu'on retrouve dans toutes les armées du monde, hein, quasiment. Hein. L'armée française, c'est la même chose. Hein. Mais là, c'est vrai que ces soldats qui n'étaient pas non plus, qui n'avaient pas l'instruction, c'est-à-dire qu'on avait une forme de commandement qui était très descendant dans l'armée italienne, le chef avait toujours raison et le soldat, en fait, en base, ne devait qu'obéir avec peu de marge de manœuvre, ce qui n'était pas le cas en face, du côté allemand ou du côté austro-hongrois.
Il y a des écrivains qui se sont intéressés à cette histoire. Il y a Ernest Hemingway qui raconte la bataille dans L'adieu aux armes et Curtio Malaparte et aussi l'écrivain italien dans Viva Caporetto qui est plutôt un pamphlet contre cet engagement. Merci Michael Bourlet. Dans le prochain épisode, nous verrons que ce n'est pas en Europe qu'ont eu lieu les premiers combats de la Première Guerre mondiale, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais en Afrique, terrain de rivalité des grandes puissances coloniales.